Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans Chine Hebdo. Très heureux de vous retrouver pendant cette nouvelle heure consacrée à l'actualité de l'Empire du Milieu. Est-ce la fin du mouvement pro-démocratie à Hong Kong? Le mouvement des parapluies semble s'essouffler pour de bon. On file à Hong Kong dès l'ouverture de l'émission. Mao est-il de retour? La question est à peine provocatrice quand on voit les nouveaux clips vidéo à la gloire de Xi Jinping et des médias officiels qui prônent une rééducation à la campagne de certains artistes qui s'égarent. Décryptage dans une demi-heure. 50 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine, 50 portraits d'entrepreneurs français qui ont tenté l'aventure là-bas. C'est un livre qui nous raconte beaucoup de ces aventures chinoises qu'on raffole dans Chine Hebdo. Son auteur est avec nous. Et puis bien sûr, pendant cette heure, vos nouvelles chroniques, Fred in China pour entendre battre le cœur de la Chine sur ses réseaux sociaux ou encore Le Monde selon Fei. Et on retrouve tout de suite à Hong Kong Jean-François Di Meglio. Bonjour.
Bonjour.
Le président du think tank Asia Centre, qui est souvent avec nous dans Chine Hebdo pour nous décrypter l'actualité économique, politique ou sociétale de la Chine. Vous êtes à Hong Kong cette semaine, Jean-François Di Meglio. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu par rapport à ces regains de tension dont on avait parlé en début de semaine?
Écoutez, ce qu'on voit, ce sont plus des effets secondaires de ce mouvement étudiant que le mouvement étudiant lui-même. Il s'est dilué, alors il existe toujours, il y a toujours les quelques tentes du côté de Harcourt Road, donc tout près du siège du gouvernement. Il y a aussi des gens à Mong Kok, de l'autre côté de la rivière, comme on dit ici, c'est-à-dire c'est sur la partie continentale de Hong Kong. Il y a effectivement des accrochages, et il y en a eu effectivement ces jours-ci à Mong Kok, avec l'arrestation d'un des jeunes leaders, celui de 17 ans, Joshua Wong, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, il y a des restes de l'activité, mais ce qu'on voit surtout, ce sont les effets secondaires, c'est-à-dire les grandes mesures de précaution qui sont prises pour que la circulation, pour que les personnes ne soient pas gênées, va-t-on dire, parce qu'il existe encore de ce mouvement. Et donc, finalement, l'ampleur est plus sensible par les précautions qui sont prises et par le filet de sécurité ou le cordon sanitaire qu'on a mis autour de tout ça, et parfois malheureusement aussi par les heurts plus ou moins violents qui ont lieu le soir, que par la présence d'un mouvement qui effectivement s'effiloche, comme vous aviez tendance à le dire à l'instant.
Et effectivement, Jean-François Di Meglio, on a tendance à dire sur cette semaine que on a l'impression d'assister à une sorte de queue de comète, mais les commentaires qu'on entend, c'est plutôt est-ce que ce ne serait pas la fin de la révolution des parapluies?
Il va certainement rester quelque chose. Comme on l'a dit, si bien sûr nos auditeurs s'en souviennent, et j'en suis sûr, tout à fait au début de ce qui se passait à Hong Kong, quoi qu'il dût arriver, il y aurait de toute façon quelque chose de changé dans les mentalités à Hong Kong. Et effectivement, ce qui a changé, c'est que même dans la rue, même malgré le ressentiment quand même des personnes qui travaillent à Hong Kong, en partie les commerçants, qui râlent parce que tout ça perturbe leur activité quotidienne, il y a une prise de conscience politique, il y a une petite graine qui a été mise. Elle ne va pas disparaître. Donc ceci, ça va rester. Et puis, il va certainement rester aussi là-bas, sur la colline où se trouve ce qu'on appelle l'université chinoise, d'où beaucoup des mouvements sont partis, pas uniquement de là, mais quelque chose qui est parti quand même de ces hauteurs de Chatine, presque à la frontière entre le territoire et la Chine continentale proprement dite. Il va rester ce petit ferment. On ne va pas le voir. La part la plus visible du mouvement a été, sinon éradiquée, en tout cas balayée, c'est certain. Il n'y aura pas de révolution des parapluies. Il y a eu des petits mouvements, il y a eu des mouvements plus importants, il y a eu quelque chose de visible, mais tout ça c'est derrière nous probablement. En revanche, quelque chose a changé plus profondément et on va faire attention à Hong Kong.
Cette petite graine, Jean-François Di Meglio, elle s'appelle Joshua Wong, ce jeune leader de 17 ans, ou c'est quelque chose qui quelque part le dépasse?
Bien sûr, un leader est toujours représentatif, un leader est toujours charismatique, et sans ce jeune garçon, ce mouvement n'aurait pas pris la forme qu'il a prise, parce qu'effectivement, il a des caractéristiques tout tout à fait original. Et puis il a cet âge très jeune, encore plus jeune, sans qu'il soit possible de faire des comparaisons que ceux d'il y a un peu plus de 25 ans à Pékin. Mais il y en a d'autres aussi. Alors effectivement, il est très responsable de la forme que ça a pris, mais il incarne probablement, n'oublions pas, ces gens qui sont nés après la rétrocession, c'est-à-dire des gens dont on pouvait penser que l'horizon était la Chine et qui brutalement se découvrent comme des gens dont l'horizon est quelque chose d'autre et une aspiration politique tout à fait différente de celle qui était dans les cartes.
Et est-ce qu'au final, on peut parler d'une gestion plutôt fine de la part de Xi Jinping, de ce mouvement qui, dans un temps plutôt proche, aurait été maté, j'allais dire, peut-être assez rapidement, peut-être avec une certaine brutalité. Là, et vous étiez le premier à nous expliquer dès le début, attention, vous verrez qu'ils feront attention à laisser traîner, pourrir un peu la situation, voire même faire en sorte que le mouvement s'essouffle par ses divisions en interne. Eh bien, c'est finalement ce qui s'est à peu près passé.
Oui, la gestion était très bonne du côté Hong Kong, on peut dire. On va faire d'autres commentaires sur les autres fronts qui sont impliqués dans cette situation. C'est-à-dire que c'est la posture impériale et très lointaine dont on a vu que Xi Jinping se faisait l'emblème, en déléguant le travail, si on peut dire, au chef exécutif de Hong Kong, puisqu'après tout, c'est bien son travail, c'est bien chez lui que ça se passe. Et donc la Chine a été très absente en première ligne. Bien sûr, on sait bien le rôle qu'elle a joué, mais en première ligne, il s'est surtout agi des autorités de Hong Kong. Alors ensuite, est-ce que l'habileté va jusqu'à intégrer ce qui était inévitable, c'est-à-dire les élections municipales à Taipei, à Taïwan, qui ont eu lieu pendant les dernières semaines, c'est-à-dire donc il y a maintenant 15 jours, ces élections qui ont balayé, du coup, le parti qui est le plus favorable à Pékin, est-ce que cette gestion a intégré ça, à savoir que finalement les élections présidentielles à Taïwan sont encore loin, encore un peu plus d'un an et demi, et que tout ça sera digéré, ou que, quoi qu'il arrive, la tendance qui se passe à Taïwan ne pourra pas être inversée fortement? Ça n'est pas sûr. Il y a peut-être une correction de trajectoire qu'il faudra faire à un moment ou un autre vis-à-vis de Taïwan dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle.
Ah bien, écoutez, en tout cas, on continuera à suivre cette situation s'il en est. Grâce à vous, Jean-François Di Meglio, je rappelle, vous étiez à Hong Kong, le président du think tank Asia Centre. Et tout de suite, comme chaque semaine, on file entendre battre le cœur de la Chine sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup.
À bientôt.
BFM Business, Fred in China.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous digital, Fred in China. Fred Rayard est le cofondateur de Fred et Farid Group, le premier groupe français indépendant de communication digitale. Il habite à Shanghai depuis septembre 2012 et avec ses équipes, il entend battre le cœur de la Chine sur ses réseaux sociaux. Fred, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le hot topic de la semaine, c'est le Smile Challenge. Racontez-nous.
Le Smile Challenge, alors c'est un petit peu, vous vous rappelez du Ice Bucket Challenge, c'est une espèce de... Maintenant, c'est le Smile Challenge, mais c'est un peu sur le même principe. Et c'est un mouvement spontané. C'est ça qui est assez marrant. C'est qu'on sait pas qui l'a lancé. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que ça a été lancé sur WeChat. Le principe est simple. C'est en fait pour diffuser de la positivité en Chine. Et c'est que les Chinois sont hyper positifs. Et, eh bien, on se prend en photo. On est donc invité à se prendre en photo en souriant et à poster sa photo sur WeChat en mettant des mentions. On peut mentionner sur WeChat 10 personnes. Et donc, les 10 personnes mentionnées vont se poster à droite et poster à gauche la personne qui les a mentionnées. Donc ça a été extrêmement viral et ça a enflammé WeChat.
Oui, et c'est ça qui est assez étonnant, hein, qu'un mouvement viral comme ça ait pris sur WeChat.
Oui, c'est très très rare et c'est très très récent. Ça montre à quel point WeChat est en train donc de prendre le pas sur Weibo. Et vous savez qu'il y a une baisse de 40% de la fréquentation de Weibo cette année, et depuis 2 ans, WeChat est passé à 600 millions d'utilisateurs. Donc c'en est l'illustration. C'est très très rare qu'un mouvement viral naisse sur WeChat, et ça y est, ça arrive. Et alors ce qui est étonnant, on est même dans un truc où le mouvement est né sur WeChat et il est arrivé après sur Weibo. Alors sur WeChat, on peut pas monitorer, mais sur Weibo, on peut monitorer, et on a monitoré, nous, 300 millions de vues de ce mouvement sur Weibo, ce qui est colossal. Et ça a même été hijacké par une association caritative, positivement hijackée, pour les enfants qui souffrent du bec de lièvre, et donc en disant, continuez à sourire, mais pensez quand même à ceux qui souffrent du bec de lièvre.
Allez, la hot brand de la semaine, autour de Youku, hein, le YouTube chinois.
Et oui, et c'est un bad buzz colossal. colossale à l'ampleur de la Chine. Youku, donc, qui était ovationné la semaine dernière et qui cette fois-ci s'est fait lapider sur les réseaux sociaux. C'est une histoire, et à juste titre, et c'est une histoire, donc, il y a un jeune garçon qui s'appelle Nico, qui avait envoyé dans l'espace, avec un ballon à l'hélium, qui avait envoyé une caméra dans l'espace. Et donc, il avait fait un film, Youku, où on voit donc, c'est la caméra donc s'éloigner de la Terre, jusqu'à l'espace, où après, et elle envoyait ses images. Et donc, ces images, ce jeune garçon les avait postées sur Youku, mais comme ce n'est pas un influenceur, ça n'avait pas fait beaucoup de vues. Et là, un producteur de Youku, pour lancer une association Youku Momo, M-O-M-O, c'est le Tinder chinois, un producteur a contacté Nico en lui demandant « Est-ce qu'on peut utiliser ton film pour cette promotion de notre association Youku Momo ?» Et en fait, au milieu du process, le producteur est devenu injoignable. Et un mois plus tard, ou une semaine plus tard, quelques jours plus tard, un film sort avec les images du jeune garçon Nico, mais un autre garçon en fait. Donc Youku a re-shooté un faux garçon qui aurait lancé ce ballon dans l'espace en reprenant en plus les images de ce jeune garçon. Donc colère, évidemment.
Justement, ce garçon Nico, il a réagi ou pas ?
Et il a réagi et ça a été extrêmement violent parce qu'il a écrit un long article sur Weibo et il a été soutenu par toute la Chine. Et alors c'est hyper intéressant parce que c'est le début en fait, c'est presque l'éveil de cette idée de la propriété sur les idées, en fait. La propriété sur les idées. Parce qu'en Chine, ça n'existe pas. Tout le monde copie tout le monde, et c'est normal de copier. Et on se rend compte que cette nouvelle génération, bah, finalement, elle trouve pas ça complètement normal de se faire piquer des idées. Donc ça a été colossal, extrêmement soutenu. C'est pour ça que c'est un truc vraiment intéressant, ce qui s'est passé en Chine, donc, cette semaine. Au point où, au Nasdaq, donc, Youku a perdu 4,65% en valeur. Donc ils ont perdu 170 millions de dollars. Et que tout le monde trouve que c'est bien et que c'est normal. Et donc Youku a écrit une lettre d'excuse qui n'a pas suffi. Et ce jeune garçon, Nico, va légal maintenant contre Youku, soutenu par toute la Chine. Et c'est peut-être le début donc d'un changement dans les mentalités par rapport à cette propriété sur les idées.
Et votre histoire, hein, c'est une grande leçon de marketing digital hein, qu'on retrouve évidemment grâce à vous dans Fred in China. Le hot tweet de la semaine, un poulet aux oignons.
Un poulet aux oignons, alors c'est une campagne de publicité japonaise. Alors pour que ça devienne viral comme ça et que les Chinois l'adorent, elle a dû vraiment les faire rire parce que d'habitude ils n'aiment pas les trucs qui viennent du Japon. Et en fait, c'est une campagne, c'est assez marrant, c'est pour un restaurant, en fait, qui fait du poulet aux oignons. Et donc, c'est le road trip d'un poulet qui porte son oignon sur lui et qui va se rendre jusqu'à ce restaurant pour être mangé. Et donc, c'est des photos qu'on postera sur BFM et Fred in China. On voit, par exemple, le poulet qui est dans le train et qui dit « Bon, allez, je vais devenir un poulet aux oignons ». On voit le poulet qui est dans la rue et qui se fait attaquer par un chien et qui dit « Ah non, je veux pas mourir déjà ici ». Et on voit à la fin notre petit poulet qui arrive devant le restaurant et qui dit « Bonjour, votre ingrédient est arrivé ». Ça fait 70 000 retweets et ça a fait rire toute la Chine.
Voilà, et ce petit poulet et tous ces sujets et ces posts qui créent le buzz en Chine, vous les retrouverez sur le site internet fredinchina.com en lien sur les sites de BFM Business, d'Influencia et de Fred et Farid Group. Merci Fred.
Merci Mathieu.
De l'agence Fred et Farid Paris-Shanghai, à la semaine prochaine pour votre chronique digitale Fred in China. Et tout de suite, le patron de la semaine.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans Chine Hebdo. Le patron de la semaine, c'est une patronne ou en tout cas une écrivain journaliste qui a écrit sur ces entrepreneurs français qui tentent l'aventure en Chine. Vous savez, on en parle chaque semaine dans Chine Hebdo. Et bien là, c'est sur le papier. Anne Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Journaliste écrivain, vous venez de publier 50 ans, 50 entrepreneurs français en Chine. C'est à l'occasion hein, de cet anniversaire de la reconnaissance de la Chine communiste par le général de Gaulle, c'est 50 ans. C'est aux éditions Pearson. Hein.
Tout à fait.
Ce projet, il est parti d'où ?
Alors ce projet, il est parti, je vais être très très non modeste, il est parti de moi. J'avais fait ça parce que je vivais à Singapour à l'époque, sur 40 Français qui avaient créé leur société en Asie du Sud-Est. Et je l'avais fait à la fois en téléchargement libre sur Internet et aussi sur papier. Et j'avais, alors que j'ai publié dans pas mal de maisons d'édition, mais là j'avais décidé de le faire sur un autre business model. Et du coup, ça a attiré l'attention des conseillers du commerce extérieur en Chine qui m'ont demandé de faire la même chose à l'occasion du cinquantenaire. Et du coup, on a reproduit la même chose, mais cette fois avec un éditeur.
Mais ce qui est génial, excuse-moi pour ma modestie aussi, c'est que finalement, vous faites ce qu'on fait dans Chine Hebdo depuis des années. Chaque semaine, on essaye de comprendre cette Chine qui bouge à travers les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui vont sur place, qui font dont les retours d'expérience sont finalement les meilleures leçons qu'on peut apprendre pour comprendre la Chine.
J'en suis convaincue. J'ai d'ailleurs dirigé pendant 4 ans le journal de la Chambre de commerce française en Chine entre 2005 et 2010, en gros 2006 et 2010. Et c'était une expérience fascinante où j'ai essayé de mettre effectivement en commun les entrepreneurs, mais vus comme des sources d'information, les journalistes, les chercheurs, les diplomates. Et je crois beaucoup que plus aucun roule-tablier, même très talentueux, n'est capable de couvrir un pays comme la Chine. Et je crois, moi, j'ai changé un peu de bande. Ma bande, c'était les chercheurs et les journalistes. C'est devenu un peu les entrepreneurs. Parce que je pense que ce sont les grands aventuriers des temps modernes. Et je voulais leur rendre hommage. C'est ça l'idée de fond.
Vous voulez leur rendre hommage dans un pays et une région que vous connaissez, mais comme votre poche, Anne Garrigue.
Oui.
L'Asie, ça fait 30 ans que vous vivez là-bas, que vous la sentez, que vous la vivez.
Je suis arrivée en Asie en 85 au Japon. J'ai vécu 8 ans au Japon, 3 ans en Corée du Sud, 5 ans en Chine, 4 ans à Singapour, un peu à New York. Et je dois dire que je suis vraiment une Française de la diaspora, si vous voulez. Et l'idée forte du bouquin, je voudrais en faire une collection, pour l'instant il y en a eu deux, c'est vraiment de rendre hommage à la diaspora entrepreneuriale. Je crois que la France aujourd'hui, c'est la France hors les murs. C'est plus que la France dans les murs. Et cette France, elle est française. Même si elle crée en Chine, elle est française. Et elle apporte beaucoup de choses à notre pays, et de beaucoup de dynamisme, et beaucoup d'envie. Et derrière le livre, il y a aussi un projet d'aller faire des conférences dans les banlieues, dans les lycées de banlieue avec 100 000 entrepreneurs. Donc c'est même une entreprise. Et vraiment, j'ai rencontré 50 personnes formidables. Et moi, c'est l'aventure humaine qui m'intéresse.
Comment vous les avez sélectionnées, rencontrées? Alors là, je regarde, j'ai le livre sous les yeux, je l'ouvre un petit peu au hasard, je tombe sur Adrienne Chou, horlogerie chinoise de luxe.
Alors Adrienne Chou, par exemple, c'est quelqu'un qui est un jeune garçon qui a la trentaine et qui a créé sa propre marque de montres, mais qui sont des montres made in China, conçues avec l'esprit chinois, mais c'est un prince du marketing. Et donc, c'est une aventure difficile pour lui parce qu'il prend beaucoup de risques, mais il s'accroche et je crois que la ténacité, c'est quelque chose qui a de commun à tous ces gens. Alors moi, si vous voulez, la sélection s'est faite à travers, bien sûr, un carnet d'adresses, mais aussi les conseillers du commerce extérieur m'ont donné aussi des tuyaux. Ce sont des gens qui ont entre 23 ans et 65 ans. Ce sont des gens qui peuvent faire de la high-tech ou bien des fleurs. C'est vraiment très large. L'idée, c'est de balayer large.
Là, je tombe sur un autre entrepreneur, Frédéric Campagnac. Alors lui, vous le présentez de fonctionnaire à entrepreneur.
Absolument. C'est quelqu'un qui était au ministère des Transports. C'était quelqu'un de brillant, qui parle extrêmement bien le chinois et qui a créé sa boîte de logistique après travailler pour CMA, CGM. Et donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose de très difficile, c'est-à-dire le train, les transports, et qui a un relationnel tel avec les Chinois. Il dit un truc très juste. Il dit, faire du business en Chine, c'est comme faire du business à Marmande. C'est un petit monde, il faut inspirer confiance. Et une fois que les Guangxi sont établis et qu'on est...
Le réseau, très important. Est-ce qu'il y a quel est le fil rouge entre ces 50 portraits passionnants que vous brossez dans ce livre? C'est quoi? C'est cette prise de risque?
Voilà, c'est l'aventure.
C'est
l'aventure parce que c'est pas du tout politiquement correct, mais moi je pense qu'il y avait une période à France, la France de, je dirais presque du colonialisme, et pas dans le mauvais sens du terme, mais de l'aventure humaine qui consiste à partir. Et ces gens-là, ce sont les héritiers de ces gens-là. C'est des gens qui partent à 10 000 kilomètres, ils créent quelque chose et ils prennent tous les risques, et en plus, des risques calculés, mais en plus, si vous voulez, ils sont pas dans un univers familier. Donc il y a quelque chose de difficile, mais c'est des gens joyeux, c'est des gens optimistes. Et moi, c'est vrai que je l'ai pas traité par l'argent, même si l'argent est totalement important dans l'entrepreneuriat, mais j'ai voulu plutôt voir l'aspect humain.
Et des gens curieux, là je tombe pareil directement sur Adrien de Montferrand, qu'on avait interviewé aussi dans Chine Hebdo, qui avait monté sa propre galerie à Pékin, qui s'était à l'origine passionné, autodidacte passionné pour le dessin, je crois.
Voilà, il a choisi de faire quelque chose à partir du dessin, ouais. et c'est quelqu'un aussi qui aujourd'hui a un vrai réseau sur tout le monde de l'art chinois, et vous savez que l'art contemporain chinois aujourd'hui, c'est beaucoup beaucoup d'argent, c'est beaucoup beaucoup d'acheteurs, et il défend à la fois, et ce qui est intéressant, c'est qu'il en est arrivé avec, parce que tous ces gens-là ont un succès, désolée, mais moi je me suis intéressée aux gens qui réussissaient, même s'ils ont par moments failli mettre la clé sous la porte et qu'ils ont vécu des épreuves. Et bien maintenant, aujourd'hui, ils vendent des Chinois aux Chinois, ce qui est intéressant quand même, avec un regard de français, de raffinement, de choses comme ça, mais une très grande ouverture d'esprit chez cet homme, puisque, si vous voulez, il accepte de passer par des tas de fonctionnements, même humains, qui sont pas forcément des fonctionnements à la française. C'est ça aussi la force de tous ces gens-là. C'est que ces gens qui ont la modestie et l'énergie pour être capables de s'adapter, si vous voulez, à d'autres modes de fonctionnement.
Anne Garrigue, vous avez 30 ans, vous, d'aventure personnelle asiatique, amoureuse de cette culture chinoise, passionnée aussi de cette Chine qui bouge. Aujourd'hui, vous rentrez, vous revenez au pays. Le revenir en France aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui est motivant. On sait qu'il y a un climat chez nous qui est un petit peu morose, mais non, vous voyez quand même des...
Vous voulez que je vous dise la vérité? Je suis ravie d'être là. Pourquoi je suis ravie?
Ça fait plaisir à entendre.
Ah mais oui, parce que d'abord, on a un raffinement qui est extrême. Les gens ne se rendent pas du tout compte en France de la qualité à la fois de vie, et bien sûr je sais qu'il y a des choses difficiles, les gens qui souffrent, mais si vous voulez, globalement l'environnement, aussi bien en termes de sécurité sociale et d'exposition, de cinéma, de nature, vous pouvez prendre votre voiture et aller respirer et faire une balade en forêt. Vous vous rendez pas compte des gens qui vivent à Singapour, qui même, alors que c'est la ville la plus riche du monde quasiment, vous vous rendez pas compte, ils sont enfermés dans une ville, ils peuvent
on passe de boîte en boîte,
de boîte en boîte. Vous savez, le niveau de pollution, le niveau de quand même de difficultés pour les gens de vivre en Chine. Je crois que les gens mesurent pas du tout en France la chance qu'ils ont. Bien sûr, il y a de la souffrance et il y a surtout le sentiment de décadence, et c'est très dommage parce que honnêtement, nous avons un pays plein de ressources et j'ai plutôt envie d'amener ce dynamisme en France.
Eh bien, un discours et un dynamisme et un positivisme en tout cas qui fait plaisir à entendre. Merci beaucoup Anne Garrigue, écrivain journaliste qui vient de publier 50 ans, 50 entrepreneurs français en Chine aux éditions Personne. À bientôt dans Chine Hebdo.
À bientôt.
Et tout de suite, on part dans, comme chaque semaine, dans les bagages d'un des investisseurs français les plus influents en Chine.
BFM Business, le journal de bord de Chine Hebdo.
Et comme chaque semaine, on vous emmène dans les bagages d'un des investisseurs français les plus influents en Chine. André Lezecropietri est le président fondateur du fonds d'investissement A Capital. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le climat business de la semaine autour de Fosun, bien sûr.
Oui, alors surtout autour du Club Med, cette incroyable saga, cette OPA qui n'en finit pas. C'est, je crois, l'OPA la plus longue à ce jour sur le marché français. Donc la bataille pour la prise de contrôle du Club Med, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait unique dans les annales et qui montre qu'une société française comme le Club, une fois remis sur les rails de la croissance, notamment asiatique, attire beaucoup, beaucoup plus d'investisseurs qu'il y a encore quelques années.
Et la leçon à retenir en termes d'opportunités d'affaires, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument regarder en dehors des frontières.
Oui, alors il y a ce chiffre de la Banque mondiale qui annonce qu'en 2015, 90% de la croissance européenne, donc la quasi-totalité de la croissance européenne, pas seulement en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc., viendra d'en dehors de l'Europe. Donc plus que jamais, on sent qu'il commence à y avoir ces sociétés qui prennent tout le parti de la globalisation, du fait que des nouveaux marchés se créent, que des nouveaux consommateurs apparaissent, et ceux qui, et c'est vraiment pas une question de taille, qui ne font pas le pas en dehors des frontières. Et il s'agit pas juste d'export, il s'agit aussi de développement à l'international, d'investissement. Je crois que de plus en plus, il est important de regarder en dehors des frontières pour consolider ses propres activités en France et en Europe. C'est vraiment la grande leçon, d'après moi, de cette affaire Club Med, une société qui était très axée quand même sur l'Europe et sur les pays, on va dire, traditionnels du bassin méditerranéen, qui, une fois se tournant vers cette nouvelle clientèle, notamment asiatique et chinoise, devient soudain attractive pour un grand nombre d'investisseurs, d'où cette bataille tout à fait homérique.
Allez, le highlight de la semaine autour de Singapour, une ville qui peut nous montrer ce à quoi peut ressembler la Chine de demain.
Oui, alors je reviens de Singapour, je viens d'y passer quelques jours et c'est assez fascinant. On a vraiment l'impression que c'est ce que pourrait, si de bonnes décisions sont prises, ce à quoi pourraient ressembler certaines villes chinoises d'ici 5, 10 ou 15 ans. Et les réflexions sont très très intéressantes. Les deux réflexions que se posent aujourd'hui à la fois les dirigeants, la classe active singapourienne, c'est un, on a beaucoup axé sur l'industrie, les services, mais maintenant qu'on devient un centre à coût très élevé, quelle est la suite? Comment est-ce qu'on crée plus de valeur? Comment est-ce qu'on suscite l'innovation? Ça, c'est un point qui aujourd'hui, c'est très intéressant. Singapour réfléchit de la même manière un peu à ce que en France, d'une certaine manière, mais surtout l'Allemagne réfléchit. Quel est le poste industriel? Et la deuxième grande réflexion, c'est tout autour de l'urbanisation. Singapour et après, je crois, Monaco et Macao, une des villes les plus densément peuplées au monde, C'est ce que vont devenir beaucoup, beaucoup de villes chinoises. On attend plus de 100 villes chinoises dépassant le million d'habitants de plus dans les 15 prochaines années. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on optimise l'espace? Comment est-ce qu'on mélange habitation, loisirs, travail, services pour éviter justement qu'il y ait ces flux incessants le matin, le soir, entre des grandes zones d'habitation et des grandes zones de travail, ce qui semble être aujourd'hui le désastre qu'on voit dans certaines villes. Donc c'est vraiment très intéressant de regarder ce qui se passe à Singapour. Ça peut nous apprendre ce que sera la Chine dans les 10 ou 20 ans à venir.
Passionnant et à suivre, hein, grâce à vous, le regard d'un des investisseurs français les plus influents en Chine. C'est la chronique d'André Lozecroupe-Pietri. À la semaine prochaine dans Chine Hebdo. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine, Mathieu.
Et restez avec nous dans un instant. On va parler d'un clip vidéo qui rend hommage au couple présidentiel Xi Jinping et sa femme. Mais avant, les infos sur BFM Business.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans cette deuxième demi-heure de Chine Hebdo. Dans un instant, on va se poser une question à peine provocatrice. Mao est-il de retour, hein? Vous verrez, il y a un clip à la gloire de Xi Jinping qui fait un buzz sur Internet qui est assez impressionnant et d'autres signaux assez inquiétants avec notamment des agences officielles chinoises qui prônent une rééducation d'artistes jugés déviants à la campagne, auprès des masses populaires. On en parle dans un instant, mais avant, j'aimerais revenir avec vous sur deux éléments de l'actualité chinoise dont on a pas mal parlé en France, hein, sur l'antenne de BFM Business, notamment ces investisseurs chinois qui vont pouvoir financer une petite partie de nos retraites. La CADES, hein, l'organisme chargé d'écouler la dette sociale auprès des investisseurs, va en effet pouvoir émettre des titres en yuan, la monnaie chinoise, opération qui sera réalisée avec la Bank of China. La dette sociale française est constituée, vous le savez, des déficits de la Sécu accumulés au fil des ans. Et c'est donc cette CADES qui est chargée de convaincre les investisseurs d'en acheter des petits bouts. Patrick Rachmadou est le président de la CADES, on l'entendait sur BFM Business vendredi dernier.
Ça sera une partie de notre dette qui, au lieu d'être en euros ou en dollars, sera en monnaie chinoise. L'intérêt de ce genre d'opération, c'est de permettre à d'autres investisseurs qui actuellement n'achèteraient pas de notre dette parce qu'ils n'achètent pas de dette en euros ou en dollars, d'acheter notre dette en monnaie chinoise. Plus nous avons d'investisseurs différents, plus le coût de notre dette diminue, puisque je ne dirais pas que les gens se battent pour acheter notre dette, mais il y a une concurrence à ce moment-là entre les investisseurs et ça nous permet à nous de diminuer le prix de revient de la dette.
Voilà, c'était Patrice Rachmadou, le président de la CADES, hein, qui était sur BFM Business vendredi dernier. Autre sujet largement évoqué sur notre antenne cette semaine, l'aéroport de Toulouse, vous savez, vendu en partie à un consortium chinois. Les offres de Vinci et d'Aéroports de Paris n'ont pas remporté la mise. Le consortium chinois va donc prendre 49,9% des parts de l'aéroport pour 300 millions d'euros, ces explications par Laurent Mimouni.
Oui, le gouvernement a finalement choisi ce consortium chinois malgré les inquiétudes répétées des élus locaux. Ce consortium baptisé Symbiose est composé en réalité de deux groupes chinois appuyés par une entreprise canadienne. Il a présenté une offre meilleure que les autres, non seulement en termes de prix, mais également en termes de perspectives d'emploi, fait valoir Bercy. Dans un entretien ce matin à la Dépêche du Midi, Emmanuel Macron insiste également sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une privatisation, mais seulement d'une ouverture de capital dans laquelle les collectivités locales et l'État restent majoritaires avec 50,01% des parts. Le président de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, a d'ailleurs aussitôt plaidé pour un pacte entre les actionnaires français pour s'assurer que l'aéroport reste bien dans la sphère publique. Avec ce nouvel actionnaire chinois, la plateforme de Toulouse a notamment pour ambition d'essayer d'attirer une part significative des touristes chinois qui viennent visiter la France.
Voilà, c'était les explications de Laurent Mimouni, hein, cette semaine sur BFM Business. Restez avec nous, on va se poser cette question maintenant. Mao est-il de retour ? Voilà, vous entendez là la musique, hein, la musique d'un clip vidéo à la gloire du couple présidentiel de Xi Jinping et de sa femme. Un clip vidéo qui vraiment fait le buzz sur la toile en Chine. Jean-Luc Deménac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, auteur de Mao, sa cour et ses complots aux éditions Fayard. Vous l'avez vu ce clip, qu'est-ce qui vous inspire?
Mais écoutez, deux commentaires. Le plus important, c'est que c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'en est fini des visages émaciés et des photos solitaires, et pas des films d'ailleurs, des photos solitaires de tous ceux qui ont précédé M. Xi Jinping. Maintenant, je dirais, c'est le roi et la reine, ou plutôt l'empereur et l'impératrice. Et ça, je trouve ça vraiment, ça dit un tas de choses. D'abord que, eh ben, ce qui compte, c'est quand même les grandes affaires du pays. Mais ensuite que, ils regardent la nation comme un père et une mère regardent la nation. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important. Et bien, si vous me permettez, il y a un deuxième commentaire. Je vais vous dire, c'est qu'ils sont bien en chair. L'un comme l'autre. Et ça, je crois que c'est tout à fait capital. Il faut se rappeler que Shuanlai était complètement émacié. Jiang Zemin, lui, ça c'était un petit peu particulier, il picolait. C'était quand même le contraire, si je puis dire, mais pas très sympa. Là, c'est vraiment... l'empereur est un grand-papa, bien en chair, et on le voit quand même prendre un petit cognac, mais pas plus à la fin à la fin du dîner.
Oui, alors.
Et quant à elle,
Alors c'est une lecture, hein, Jean-Luc de Ménac, où vous nous parlez de, vous nous brossez un portrait de Shidada bien en chair avec avec sa femme, père et maman de la nation. Il y a un côté protecteur, sympathique, et en même temps qui peut peut-être faire un petit peu peur aussi si on instrumentalise cette image, non?
Ah non, parce que je pense que franchement ça se je vois pas en quoi ça ferait peur. Ils sont après tout ça invite à la consommation. Moi je dirais que ce sont l'empereur et l'impératrice du temps de la consommation.
Aïe. Vous vouliez nous dire aussi un mot sur la femme de Xi Jinping telle qu'elle apparaît dans ce clip, hein.
Oui, moi je trouve qu'elle est à la fois très élégante, mais en même temps, elle a la coiffure d'une impératrice. Voyez, elle a une coiffure qui en fait plus que son grade. Avant, on ne voyait pas les épouses, ou bien avant, elles étaient convenables, et c'est tout. Et maintenant, on voit une épouse qui est presque à parité avec son mari et qui dit des choses. De son côté, elle a cette coiffure, est une coiffure, c'est la Marie-Antoinette du 21e siècle.
Tel que vous nous en parlez, on a l'impression que sur la forme, sur l'image, sur la communication, il y a vraiment une véritable révolution, là-dessus en Chine. Et d'ailleurs, ils communiquent sur un côté glamour du couple présidentiel, qui est assez étonnant, hein. On n'était pas habitué à ça en Chine.
Glamour, et en même temps aussi avec un tout petit zeste de tradition. Il la regarde un peu comme un roi, comme le roi Louis XIV regardait sa épouse au temps où il l'aimait, hein. C'est-à-dire d'un clin d'œil, un regard d'en haut, mais ils n'en sont pas quand même à se bécoter devant tout le monde.
Ouais. Et en même temps, dans la culture chinoise, est-ce qu'aujourd'hui, dans les nouvelles grandes villes secondaires, tertiaires, est-ce que on n'a pas l'habitude non plus d'exhiber la passion d'un couple sur la scène publique?
Voilà, la grande différence, c'est que monsieur montre madame, et que monsieur et madame ont... est-ce vrai, hein? Bon. Mais que monsieur et madame ont ensemble des communications aimables et voire même coquines d'un couple.
Ah, et c'est vraiment en termes de communication quelque chose d'assez extraordinaire qu'on va suivre, hein, régulièrement dans Chine Hebdo.
Vous avez raison, parce que c'est tout à fait essentiel pour comprendre, c'est bien plus important que de lire 3 ou 4 numéros du quotidien du peuple.
Bien sûr. Puisque vous nous parlez d'un média officiel chinoise, j'aimerais aussi avoir votre analyse et votre réaction par rapport à une nouvelle qui personnellement m'a glacé un petit peu le sang, apprise par l'agence officielle Chine Nouvelle cette semaine. Qu'est-ce qu'on apprend? On y apprend que la Chine va envoyer les artistes, cinéastes et gens de télévision à la campagne pour y acquérir un point de vue correct sur l'art au contact des masses rurales. Mao est de retour, quand on lit ça en tout cas.
Non, mais quand même, c'est pas très sympa. Là aussi, deux commentaires. Le premier, c'est que de toute évidence, on a là la petite monnaie par laquelle Xi Jinping achète la paix pour discuter avec Obama. Je le dis comme je le pense. il faut quand même donner du grain à moudre et des chairs fraîches à dévorer à la sécurité publique, c'est-à-dire à la police, et leur donner l'impression qu'ils vont faire quelque chose dans la grande tradition. Cela posé, deuxièmement, ça va quand même être coton. Il faut savoir que la plupart des artistes en Chine ne dépendent pas des crédits d'État. Alors ensuite, bonjour pour les trouver. Hein. Il faut savoir également que ils sont les rois pour organiser des sortes de camps idéologiques, mais où on, qui terminent en beuverie à partir de 5 heures du soir. Donc bon, c'est une gesticulation, mais c'est une gesticulation qui est pas sympa, qui est pas très comment dire, qui n'ouvre pas, comment dire, à des lendemains qui chantent, et qui montre bien que si Xi Jinping est quand même beaucoup plus puissant que ne l'étaient ses prédécesseurs, peut-être même Deng Xiaoping compris, il doit quand même faire attention, et il y a quand même des têtes de bois qui sont encore quelque part, notamment dans la sécurité publique, et auxquelles il faut donner de quoi s'occuper.
Bien sûr, mais donner de quoi s'occuper, est-ce qu'on est plus là dans un exercice, j'allais dire, de stratégique de communication, ou est-ce qu'on peut vraiment passer à l'acte?
Ils vont passer à l'acte.
Je vais employer les grands mots, mais envoyer quelques artistes déviants,
oui,
entre guillemets, se rééduquer, quoi.
Ils vont le faire, mais attendez, ils vont acheter des bières dans le train avant de prendre le train. C'est quand même différent, vous voyez. Maintenant, on n'osera pas leur faire faire plus de 2-3 heures par jour, et de toute façon, les artistes les plus brillants qui connaissent naturellement tous les dirigeants politiques s'en excluront, n'iront pas, et d'autre part, beaucoup, la grande majorité, j'y reviens, ne sont pas concernés parce que ils y vendent leurs tableaux, parce que ils sont articulés sur le marché privé.
Alors peut-être on profite d'avoir votre expertise, oui. Jean-Luc de Médac, mais un autre sujet. La Chine célébrait jeudi dernier sa première journée de la Constitution, hein, qui est censée promouvoir l'autorité de la loi. C'est un sujet qu'on évoquait aussi il y a quelques semaines avec une des grandes spécialistes du droit chinois en France, Stéphanie Balm, qui elle s'inquiétait, hein, sur notre antenne, d'un renforcement, d'une centralisation du pouvoir et de la loi en Chine. Est-ce que vous partagez cette inquiétude?
Je crois qu'elle a raison, mais tout dépend, comment dire, de quelle période on parle. S'il s'agit de la période récente, je vous dirais, c'est clair. Xi Jinping échange les mains libres dans l'essentiel, c'est-à-dire l'économie d'une part et Obama d'autre part, et puis maintenant Hong Kong, hein, parce que les autres auraient bien voulu qu'il tire dans le tas à Hong Kong, hein, et il l'a pas fait. Eh bien, il échange ça contre des gesticulations et contre un certain nombre de concessions. Ça, c'est vrai, et Stéphanie a raison. D'un autre côté, sur 4 ou 5 ans, permettez-moi de vous dire qu'on est quand même dans une période où, moi je crois, grâce en bonne partie à la féminisation des métiers judiciaires, il y a de plus en plus de juges femmes, il y a de plus en plus d'avocates, il y a de plus en plus de procureuses, si je puis dire, eh bien, quand même, je trouve que ça fonctionne un petit peu plus, je dirais pas mieux, mais le droit fonctionne plus qu'avant, et pour moi, c'est quand même globalement un progrès. Mais dans le progrès, je suis d'accord avec Stéphanie que ça, c'est moins bon maintenant, évidemment.
Merci beaucoup en tout cas de vos éclairages, Jean-Luc de Ménac. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, auteur de Mao, sa cour et ses complots aux éditions Fayard. À très bientôt dans Chine Hebdo.
Au revoir.
Et restez avec nous tout de suite, Le Monde selon Faye.
Chine Hebdo, Le Monde selon Faye.
Ce monde, hein, selon Fei, c'est le regard unique d'une sérielle entrepreneur chinoise en France, à la tête des éditions Fei. L'auteur du livre « Petite fleur » de Mandchourie aux éditions Exo vit son rêve français, nous livre son regard aiguisé sur certains aspects de nos deux cultures françaises et chinoises. Allez, on retrouve à Chengdu, en Chine, Fei. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, Fei, vous voulez nous parler d'un petit animal, petit ou moins petit d'ailleurs, que vous adorez, qui est un emblème d'ailleurs de la culture chinoise, le panda.
Le panda, je suis allée voir beaucoup de pandas il y a 2 jours. Alors ce qui m'a vraiment choqué ou touché, c'est cet animal qui a l'air trop comique, qui est simple, qui reflète beaucoup la culture et la civilisation chinoise. D'abord, je ne sais pas si Mathieu, tu es au courant que panda n'attaque jamais. Il attaque pas automatiquement. Quand on touche ses enfants, peut-être il va protéger ses enfants, mais sinon c'est un animal très pacifique. Donc ça me fait penser à notre civilisation de Han. Bon, il y avait le Mongol de Genghis Khan qui était parti loin. Mais sinon, Han, c'est pas une culture qui attaque, mais c'est une culture qui contient, qui prend les autres cultures, qui les mélange et qui met le mix avec les autres.
C'est ça, il faut rappeler qu'en Chine, il faut rappeler peut-être, Faye, qu'en Chine, 80-90% de la population chinoise vient de la, des Han, hein, c'est ça, qui est vraiment la
oui,
culture millénaire.
Oui, 90%, ouais. Et la deuxième chose de panda qui est très intéressante, c'est que les pandas, ils vivent une vie très très simple. Ils font trois choses. D'abord, ils passent 70 ou 80% de son temps à manger. Donc, ils mangent que du bambou. Et après, il va monter dans un arbre pour dormir, parce qu'il sait que personne ne va le toucher. Et après, il sort pour jouer. C'est une sorte de vie très très simple. Et dans la culture ancienne chinoise, on n'est pas obligé d'avoir toujours des objectifs dans la vie, toujours des objectifs de la société, des affaires, des projets. C'est plutôt vivre le jour et jour. Donc ça ressemble beaucoup au panda.
Ouais, en fait, c'est un peu un modèle épicurien, carpe diem. Vivre au jour le jour, c'est quelque chose que vous ressentez chez le panda et que vous ressentez même chez vous dans votre activité de chef d'entreprise chinoise.
Il y a une petite histoire qui illustre bien ça. Un petit moine qui pose la question à un vieux moine et il dit, mais vieux moine, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Le vieux moine, il dit, je porte l'eau, je coupe les bois et je fais la cuisine. Et donc le petit moine, il a demandé, mais alors, il y a 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Il a dit que je coupe le bois, je porte l'eau et je fais la cuisine. Et le petit moine, il dit, ça veut dire que vous avez rien fait alors dans la vie, vous avez même pas avancé. Et il a dit, la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand je coupe du bois, je coupe du bois. Avant, quand je coupe du bois, je pense à porter de l'eau et je pense à faire la cuisine. Et aujourd'hui, quand je porte l'eau, je porte l'eau. Et quand je cuisine, je cuisine. Il y a une grande philosophie de cette trésor du présent qui vit par les pandas et tous les sages.
Ah oui. Bon, en tout cas, je sens que ces pandas vous rendent philosophe. Hey, peut-être un dernier mot quand même sur le pourquoi est-ce que le panda en fait est un emblème de cette culture chinoise. Au-delà de la symbolique, hein, vous avez dit bah voilà, il est pacifique, il reflète des valeurs, il s'adapte. Mais ça a toujours été un emblème chez vous.
C'est un mystère pourquoi cet animal a arrivé à survivre après toutes ces années-là quand les autres animaux sont disparus. Je pense. Sur le fond, tous les animaux ou des nations ou des races qui attaquent ou qui sont très très forts, qui veulent la guerre, qui ne peuvent pas tuer. Donc je crois que nous sommes nés avec ces pensées, ces cultures de confucienne ou de Laozi, c'est de s'adapter. Si on n'arrive pas à courir vite, même si on a envie de manger de la viande, on devient végétarien. Par exemple, on n'a pas vraiment la peur parce qu'on sait qu'il y a notre vie ensuite qui va venir. Je crois que c'est tout un ensemble de philosophies, de manières d'être finalement qui rendent les Chinois très très forts. J'ai même, Mathieu, tout à l'heure, en mangeant ce soir pendant le dîner, j'ai un ami qui fait une blague très méchante. Il a dit, heureusement, à l'époque que les Japonais attaquent les Chinois, qu'on a gagné la guerre au lieu de perdre. Parce que si on a perdu la guerre, on aura 57 race en Chine au lieu de 56.
Ah oui, là c'est.
Je sais pas si tu me fais comprendre.
Oui.
C'est parce que
oui,
cette culture qui prend les autres, qui mixe avec soi-même, qui fait l'autre, qui fait partie de nous-mêmes. Ça, c'est une sorte de mixage. Quand on dit en New York, c'est melting pot. La Chine, c'est pire. C'est que je crois qu'on n'a même pas besoin d'avoir des armées envoyées hors de Chine pour, entre guillemets, conquérir le monde. Les Chinois, on veut juste pacifiquement faire les affaires, faire les enfants. Déjà, par nature, la Chinoise sont partout. Même pas par l'agressivité ou par l'ambition. C'est juste par la nature. Comme les pandas.
Merci beaucoup, Fei. On va vous laisser avec vos pandas à côté de Chengdu. Et à la semaine prochaine pour votre
merci
chronique
Mathieu,
Le Monde se le Fei. Au revoir.
Ciao, à très bientôt.
Et dans un instant, on ouvre notre page culture avec Emmanuel Linco.
BFM Business Weekend. Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans Chine Hebdo, il est temps de parler de culture.
BFM Business, Culture Chine.
Culture Chine avec le président de Signe Stratégie, Emmanuel Linco. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous avez choisi aujourd'hui un extrait de La Mante religieuse.
Ah oui, c'est un dessin animé extraordinaire qui est devenu pratiquement un must dans l'histoire des dessins animés chinois de Hu Tinsing, 1988, avec une musique de John Dong sur les animaux.
Qui illustre justement votre chronique aujourd'hui sur la culture animale en Chine. Quel enjeu, quel code culturel autour de l'animal ?
Ben, les choses sont en train de changer, c'est-à-dire que il faut bien dire que les Chinois, d'une manière générale, maltraitaient les animaux. Et là, il y a une conscience, une nouvelle éthique, une nouvelle manière d'être qui joue plutôt favorablement à l'adresse des Chinois dans leur relation avec les animaux domestiques en particulier.
Et comment ça s'explique cet éveil au respect de l'animal ?
Ben déjà, il y a, je pense, un phénomène lié aux cultures urbaines. C'est-à-dire que les gens sont un peu en perte de repères, ils perdent également leurs racines rurales et donc ils ont besoin justement de revenir quelque part à cette proximité avec l'animal, et cela donne lieu à l'explosion même de domestication d'animaux, chiens et chats, mais aussi oiseaux dans les appartements, et il n'est pas une famille chinoise ou presque qui n'ait pas son petit chien ou son chat.
Et donc il n'est plus de bon ton de manger du chien.
Mais voilà, et c'est là où je voulais en venir. Alors, il y a peut-être une sensibilisation en amont qui nous vient aussi des grands artistes chinois contemporains qui, eux-mêmes, depuis des années, se sont emparés du sujet, qui abordent l'histoire des animaux ou qui mettent en valeur ou en scène des animaux. On pense à Huang Yongping, Cai Guotian, Li Xiaoting, qui sont tous intéressés justement par la cause animale. Récemment, il y a eu une affaire tout à fait symptomatique à Yulin, dans la province méridionale du Guangxi, pas très loin du Vietnam. On a critiqué vertement les vendeurs de viande de chien, parce que longtemps ça a été une institution, et il faut rappeler que c'est ce que nous disait le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, que la consommation d'aliments est liée bien sûr à une culture, mais aussi à des tabous alimentaires.
La consommation d'ailerons de requin aussi est un sujet qui a émergé, qui s'est mis à faire polémique en Chine.
Absolument. Soit on y voit évidemment une possibilité d'en faire des médicaments traditionnels, une façon de réactiver son yang, soit dans la Chine ancienne, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, dans la Chine impériale, manger du chien, c'était une façon de critiquer par des voies de détour la culture mandchoue, dominatrice, parce que les Mandchous, comme les Tibétains d'ailleurs aujourd'hui encore, quant à eux, sacralisent les chiens, vous voyez. Donc rien n'est laissé au hasard, bien sûr.
Et il y a un vrai sujet de société, car on a même vu des stars s'opposer à l'introduction en bourse de groupes chinois qui, justement, utilisaient encore de la bile d'ours ou des ailerons de requin.
C'est le cas effectivement du groupe pharmaceutique Guizhentang qui en 2013, donc l'année dernière, a été attaqué par de grandes vedettes telles que le basketteur Yao Ming, qui ont très largement critiqué justement cette vente et cette utilisation d'animaux. Et donc on assiste de plus en plus à une sensibilisation des Chinois pour le monde animal. Alors c'est pain béni également, je dirais, pour revenir à la dimension business de notre propos, pour les industries agroalimentaires françaises, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire destiné à la consommation canine.
Et aussi pour les industries de luxe.
Mais aussi pour les industries de luxe, parce qu'évidemment, tous ces amis petits chiens, petits chats, dans les grandes villes chinoises, ont besoin de colliers de luxe, d'ustensiles de toutes sortes. Et là, évidemment, il y a un marché de plusieurs milliards de petits chiens et de petits chats auxquels il faut bien sûr penser.
Allez, voilà, c'est un avis pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent, tiens, où est-ce qu'on peut aller investir, trouver des nouveaux business, des nouvelles niches de marché en Chine.
Sans jeu de mots, merci.
Merci beaucoup Emmanuel Linco, président de Signe Stratégie. À la semaine prochaine pour votre chronique Culture Chine. Voilà, on va donc se quitter sur ce bon son, hein, la fin de ces aventures chinoises. Mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec tous vos chroniqueurs, vos nouveaux chroniqueurs qui sont là pour vous faire comprendre cette Chine qui bouge, être au plus près hein, de cette actualité de l'Empire du Milieu grâce à Fred Rayard, le cofondateur de Fred et Farid, qui chaque semaine vous fait entendre battre le cœur de la Chine sur ses réseaux sociaux, grâce à Fei, cette sérielle entrepreneur chinoise qui vit son rêve français, qui chaque semaine nous en dit un peu plus sur des aspects culturels de nos deux pays, grâce à Emmanuel Linco que vous venez d'entendre, qui connaît ô combien cette culture chinoise, et grâce à cet investisseur français, l'un des plus influents en Chine, André Losekrug Pietri, car chaque semaine, on vous emmène dans ses bagages pour humer l'air du business en Chine. Voilà, toutes ces nouvelles chroniques, ce n'est rien que pour vous dans BFM Business. Très beau week-end à tous, sur BFM Business, bien sûr.